Hachem, Hachem, Nassé, Venatziar, Bédrat Hachem, que les paroles puissent nous réchauffer à tous le cœur, qu'elles soient les lunishmat de tous les niftarim, ou Birchlala, ma vie mourir, Rabbi Machlou, Ben Shemazora, Bédrat Hachem, Nahum, Ben Chai, Ben Zaïza, Avram, Ben Shimon, et Gam, Chana, Batlia, Avram, Ben Georgia, Gisèle, Aïcha, Bat Miriam, qui soit pour la réfroshéma de tous les cholam ou Israël, Birchlala, Yaakov, Ben Yamna, Myriam Badrachel et des enfants aussi, il y a des enfants qui sont malades, une petite fille qui s'appelle Batia Bat Ariela Hana. Si vous avez des gens pour qui on peut prier pour la réfoua chez les masses, c'est le moment.
Yeshua Ben Tova.
Yeshua Ben Tova, Bedrat Hashem. Un autre, c'est bon, Bedrat Hashem. Kakadosh Baruch Hu, il fasse qu'il y ait la réfoua chez les masses pour tous les malades.
Rachel
Bat Esther, Bedrat Hashem. Que tous ceux qui ne sont pas mariés se marient. Que tous ceux qui sont mariés restent mariés. Ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'ils aient des enfants. Et ceux qui ont des enfants, qui Bédrat Hashem, ils les envoient avec nous, on va s'occuper de Bédrat Hashem, ça va devenir des bons sadikim. Comment?
Bruno
Eliaou Ben Ben Inna Sultan. Réfoua chez les Bédrat Hashem. Quoi, le sadik? Ah, Bézrat Hachem, vous avez le soin de réussir vos examens aussi. Bézrat Hachem, je voulais vous dire ça hein, pour commencer. Je voulais vous dire pour commencer que ça me touche beaucoup de vous voir présent, Bézrat Hachem, parce que c'est pas facile. Je sais qu'en période d'examen, c'est un peu dur de venir et tout. Et je sais que vous êtes venu spécialement pour écouter le chiot. Et je sais que, Bédrat Hachem, Visroudze, vous allez avoir beaucoup de siat adishmea pour ce shiur et aussi pour les examens. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant à l'université, je faisais une maîtrise de droit international à l'époque. Comme je vous ai raconté peut-être par le passé, je me suis aperçu que j'étais interdit international. Après, je suis venu dans le vrai droit international à Torah. J'étais là-bas à l'université et plus les années elles passaient, plus je me suis renforcé dans la Torah et plus j'ai étudié. Et je vous assure que plus on étudiait, plus on a la siat adishmea. Les types, ils me voyaient plus et tout ça dans les bibliothèques et tout ça. Ils me disaient, où c'est que t'es passé et tout. Je dis, je suis dans une bibliothèque, il n'y a pas exactement les mêmes livres. Il y a le Talmud là-bas et tout ça, c'est des livres en hébreu. Parce que parfois, il y avait des chèvres qui venaient à la bibliothèque universitaire. Ils faisaient tomber des stylos devant moi et tout ça pour faire des feintes et tout ça, mais je ne les ai pas laissés faire. Je suis parti au Beit HaMidrash, j'ai étudié Baruch HaShem là-bas une bonne partie de la journée. J'ai étudié quelques heures de chol pendant la journée pour pouvoir aussi étudier le Khomer. Et j'arrivais, j'ai terrassé toute la population. Et je vous assure, plus le temps il a passé, j'étais major de mes promotions et tout ça, dans plein de matières. Et j'ai vraiment senti que quand on est avec Akadosh Baruch Hu, Hachem il est avec nous à Dassaf. Alors Bédrat Hachem, si j'ai un conseil à vous donner, comme je suis passé avant vous par là, et que Baruch Hachem, j'ai fini tout ce que j'avais à faire dans les études profanes aussi, plus vous vous rapprochez d'Akadosh Baruch Hu et plus vous réussirez Bédrat Hachem. Parce que c'est grâce à lui qu'on trouve grâce aux yeux de tout le monde. Ce soir, je voulais vous parler d'un sujet. Allez, je vous assure que je vais faire le chiur sur un pied parce que ils m'ont appelé à peu près à 2h30 pour me dire que je venais ce soir. Ça me fait très plaisir. Comme vous êtes ma famille, alors j'ai pas eu peur, je suis venu directement parce que je vous aime tellement que ça me fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et on va penser ensemble et on va se renforcer ensemble sur un sujet. C'est dans mon Sefer qu'on a écrit, les quelques gouttes de lumière pour l'éternité. C'est un sujet sur Parashat Yitro et Mishpatim. Ça s'appelle apprendre à écouter avec le cœur pour vivre avec la vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à écouter avec le cœur. Généralement, on écoute avec l'oreille. On va voir dans ce chiour comment quelqu'un il peut réussir à écouter avec le cœur. Et cette écoute du cœur, elle mène à pouvoir vivre avec la vérité. Vous savez qu'on a lu la semaine, ce Shabbat, la Parasha Titro. Cette Parasha Titro, elle nous rappelle l'événement le plus important et le plus fondamental de toute l'histoire de l'humanité. C'est Mamad Har Sinai, le don de la Torah au Mont Sinai. On sait que le monde entier, il a été créé pour la Torah. Comme c'est marqué dans le début de la Torah, c'est marqué dans Bereshit, une phrase là-bas, « Vayar Elohim et kol asher asa, ve'ine tov me'od » Akadosh Baruch Hu, il a vu tout ce qu'il a fait et il a vu que c'était très bon. « Vayi erev vayi boker yom hashishi » Ce fut le soir, ce fut le matin, le sixième jour. Là-bas, les commentateurs demandent, et la Gemara dans Maseret Shabbat, à la page 88, folio A, répond, il demande comment c'est que c'est marqué « yom hashishi » Je crois que Mahavroutel vous a dit lâcher là déjà la semaine dernière aussi, par Emmanuel Mimran. Il dit, c'est quoi Yom HaShishi? Le sixième jour. Pour tous les jours de la semaine, on a dit, c'est Vayere Iboker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shishi. Pourquoi maintenant, viens, on te dit Yom HaShishi? Alors il y a deux explications sur ça. La première, Yom HaShishi, il y a un He. Le He, c'est pour symboliser les cinq Chumashé, Chumashé Torah, les cinq livres du Pentateuque, comme on appelle dans le milieu. Je ne sais pas si vous faites partie de l'Académie française, mais ici on peut dire le Chumash parce que tout le monde comprend. Et Yom HaShishi, c'est quoi le sixième jour? Ce fut le sixième jour, ça veut dire que le monde entier n'a été créé que pour le sixième jour. C'est quoi le sixième jour? C'est le 6 Sivan de 1448 qui symbolise le jour où la Torah a été donnée au Mont Sinaï. C'est de quoi Yom HaShishi, on te parle de ce sixième jour de la création, ne vaut la peine d'être créé que parce qu'il va y avoir un sixième jour de mois de Sivan de 1448 où la Torah Akdoshah va être donnée. Quand on voit l'importance fondamentale de cet événement, on peut se demander comment ça se fait que ce Mamad d'Arsida, il n'a pas mérité une paracha en tant que telle, une paracha en soi. Comment ça se fait qu'on est venu glisser la partie la plus importante de toute la Torah Kula à la fin d'une paracha de paracha Titro? Normalement, les 10 commandements et Mamad d'Arsida, ça aurait dû avoir une paracha qui s'appelle Mamad d'Arsida. Pourquoi on n'a pas appelé la paracha? Voilà la Torah, par exemple. C'est la paracha, comme il y a la paracha Titro, il y a la paracha Mishpatim, paracha Matan Torah. Pourquoi on n'a pas fait une chose pareille? Comment Titro, qui était un homme qui s'est converti au judaïsme finalement, il a eu le mérite que toute la Torah de Shah, elle ait été donnée dans sa paracha à lui? Voilà la question qu'on va à Bezrat Hashem, un petit peu sur laquelle on va se pencher ce soir. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la Torah, c'est pas comme l'université, c'est pas comme les sphères profanes et comme les sciences. La Torah, pour pouvoir l'intégrer, la vivre, l'intérioriser et qu'elle puisse nous réchauffer, nous pénétrer profondément à l'intérieur de nous, elle nécessite une préparation. Et cette préparation, Yitro, pour réussir à découvrir le chemin de la Torah, il l'a fait, et son chemin nous permet à nous aussi de marcher dans la même voie, dans les mêmes traces que lui, pour pouvoir être raoui, pour pouvoir être apte à recevoir la Torah Akdosha. Comme dit le Pirkei Avot, au 6e chapitre, le 5e Pirkei Avot, on nous dit que la Torah s'acquiert par 48 attributs, 48 kinyanim que l'homme doit faire, et à partir du moment où il acquiert ces 48 kinyanim, alors il est clic, il boule, ça peut être un réceptacle qui peut pouvoir recevoir cette Torah Akdosha. Et à l'inverse des savants, que eux, ils peuvent vivre aux antipodes complètement de ce qu'ils enseignent, la Torah, pour pouvoir la vivre et l'intégrer et la recevoir pleinement, il faut être la preuve de ce qu'on dit, il faut être la preuve de ce qu'on est, et il ne faut pas réussir à faire dibarti echad bape vechad balev. J'ai parlé des théories merveilleuses, mais je ne les ai pas vécues. Quelqu'un qui parle des choses merveilleuses mais qui ne les veut pas, la Torah nous dit que c'est pas quelqu'un qui est fiable, c'est pas quelqu'un qui est grand. Quelqu'un qui est digne de louange, c'est quelqu'un qui parle peu et qui agit beaucoup. On apprend beaucoup d'une personne par rapport à son comportement, par rapport à comment elle se conduit par rapport aux autres. C'est pour ça que la Torah nous dit Shimusha shel Torah gadol milimuda. Une gemara dans Maseret Brachot à la page He. Elle nous dit que celui qui sert un Talmid Chacham, il est plus grand que celui qui a étudié avec lui. Comment c'est possible une chose pareille? Il dit parce que quand tu sers un Talmid Chacham, tu vois comment il se comporte au quotidien, tu vois comment il vit. La Torah, tu peux l'étudier, tu peux ouvrir un livre et voir, mais voir une anaga de quelqu'un qui se comporte en adéquation avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui est l'ambassadeur d'Hachem, d'avoir le sroud de le voir, de voir la lumière sur son visage, de voir comment il se comporte, de voir comment il se conduit dans toutes les circonstances et dans toutes les choses de la vie. Alors là, tu apprends véritablement les profondeurs de la Torah et l'application, ce qui n'est plus une théorie, qui est une pratique profonde. La paracha nous dit que, c'est marqué, « Vaishma Yitro ». Yitro, il a entendu. Elle nous enseigne en fait l'attribut par lequel toutes les 48 kidanim commencent, c'est Shmiya Taozen, l'écoute de l'oreille. Yitro, par quel mérite il a réussi à découvrir Akadosh Baruch Hu, à s'attacher à la lumière divine? Parce qu'il a écouté. Vaishma Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Rashi nous enseigne, en rapportant la Gemara dans Maseret Zvachim à la page 116, folio 1, Rashi nous dit que Yitro, il n'a pas entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit « Yitro, mon ami, tu vas te convertir au judaïsme et tout ça, il faut que tu viennes. » Yitro, il a entendu les safakol, ce que le monde entier, l'humanité tout entière a entendu. Tout le monde a entendu ce qu'Yitro, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Kiryat Yamsouf, l'ouverture de la mer rouge, tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait au Bnei Israël. Il a entendu la guerre contre Amalek, comment Akadosh Baruch Hu nous a protégés, nous a préservés contre cet ennemi redoutable qui était Amalek. Ces deux éléments, c'est ça qui a fait la base que Yitro, il a écouté, qu'il a entendu cette chose-là et qu'il est revenu Bitchouma chez les mains. Moraï Vera Botaï. Yitro, c'était un homme qui était d'une très 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 grande force dans la société. Il avait 110 ans. Rendez-vous compte, quelqu'un qui est capable de faire tchouva à 110 ans, plus quelqu'un il fait tchouva de bonheur, et plus c'est facile pour lui, parce qu'il a à admettre qu'il était dans l'erreur qu'une petite marge. Imaginez-vous quelqu'un qui fait tchouva à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans. Il se dit, j'ai encore 100 ans à vivre, ou plus, dans la vérité. Mais quelqu'un qui fait tchouva à 110 ans, Yitro, quand il a fait tchouva, il avait 110 ans. Il se dit, voilà, je dois mettre que les 110 années de ma vie que j'ai vécu, ça veut dire que je devrais admettre à la fin de ma vie que j'ai vécu plus dans le mensonge que dans la vérité. C'est quelque chose de très difficile. Deuxième élément qui a empêché cette tchouva pour Yitro, c'est le fait que c'était Kohen Midian, le prêtre de l'idolâtrie, l'homme le plus important de toute la cité. C'était le pontife le plus élevé, une personne très très sage et très instruite, qui avait des chassidim. Imaginez-vous le kavod de Melachim qu'on lui faisait. Le monde entier se dressait devant lui, on s'accroupissait, on s'agenouillait devant lui, on venait le servir, le monde entier était à ses pieds. Et maintenant, cet homme-là va avoir la capacité et la force d'abandonner tout ce kavod. C'était le premier conseiller de Pharaon. C'était un homme d'une très très grande... Et qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Par quelle route il a eu d'être celui qui va être le vecteur de toute la Torah, qui va être l'exemple de celui qui veut s'attacher pour retrouver la vérité, pour découvrir Hachem et pour recevoir la Torah Kedoshah? Il est capable du jour au lendemain de se retrouver en plein désert. Le monde entier contre lui. Tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Yitro? Tu es tombé sur la tête, de quoi tu parles? Tous les idolâtres du monde, ils viennent, ils se font une ligue contre lui, ils font des manifestations, ils se moquent de lui, ils lui font la bronca dans les tribunes, on le siffle et tout ça. Quand on le voit passer, on lui balance des œufs, des tomates, toutes sortes de choses. Il se retrouve en plein milieu du désert tout seul. Rabotai, imaginez-vous la difficulté et la force qu'il faut pour pouvoir surmonter ces choses-là. Comment cet homme-là, il a été capable de tout délaisser, ce grand kavod, toutes ces années de mensonges dans lesquels il a vécu, et il est capable d'être modéré à la émette, de se rendre à l'évidence qu'il y a un directeur dans le monde, qu'il y a le maître de l'univers. Et c'est pour ça qu'on doit dire, cet homme-là n'a pas entendu une bad call, encore une fois, il n'a pas entendu une voix céleste, il n'a pas entendu Akadosh Baruch Hu qui est venu s'adresser profondément à lui. Il a entendu ce que le monde entier, ce que l'humanité toute entière, ce que le concert des nations a entendu. Shamu Avivir Gazon, Khelachazir, je peux l'achète. Le Balatourim nous dit qu'il y a une voix semblable au rugissement d'un lion. Au moment de l'ouverture de la mer Rouge, elle a retenti Mitrila Taolam Vatsofon. D'un bout à l'autre de l'univers, il y a cette voix-là, semblable au rugissement d'un lion qui est venu envahir le monde entier, l'humanité tout entière. Si tous ces gens-là, ils ont entendu cette chose-là, comment ça se fait que personne n'a bougé? Rachav, qui était la femme de Yehoshua Binoun, elle est venue raconter que quand il y a eu cette chose-là, tout le monde a tremblé, tout le monde a bougé, tout le monde a eu très peur quand ils ont entendu Kriyat Yam Souf, même si jamais ils n'étaient pas sur place, ils ont entendu de l'autre bout de l'univers. Les Chinois, les Bolderies, les Africains, toutes sortes de gens, ils étaient tous présents là-bas. Tout le monde a entendu. Elle lui a dit, personne n'a bougé. Les gars, ils ont entendu, ils ont écouté, ils ont tremblé, ils ont eu peur. Et après, tout le monde est retourné à son train-train quotidien, à son mensonge coutumier. Personne n'a accepté de changer, personne n'a voulu bouger. Un seul homme parmi des millions, à l'écoute de ces événements, il a décidé qu'il allait changer sa vie. Il a décidé qu'il allait se prendre en main. Il a décidé qu'il pouvait plus jamais vivre de la même façon. Les peuples des nations, les gens du monde entier, à ce moment-là, ils ont été comme les fils d'Israël quand ils étaient en Égypte. Moshe Rabbeinu, quand il est venu leur dire, mes enfants, on va être délivrés, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de nous délivrer. C'est marqué, lo shamu. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, Bnei Israël, lo shamu elai, mikutsevwar, umuodakasha. Les Bnei Israël ne peuvent pas m'écouter à cause de leur souffle court et de l'asservissement, de la servitude dans laquelle ils sont. Quelqu'un qui est bercé dans l'illusion, Rabotai. Quelqu'un qui est bercé dans le travail, dans l'esclavage de Wall Street, des 26 heures par jour. Comme je vous ai dit, ils ont créé des jours spéciaux à Wall Street de 26 heures par jour. Le type, toute la journée, il se prend des BBM Messenger, des tululut, et tout ça. Toute la journée, il a des Facebook, et l'autre, il lui envoie 12 000 messages, et l'autre, le fax portable, l'autre, les 12 000 téléphones, et le MSN Messenger, et l'autre, le iPod, et le iPhone, et le truc. Le gars, toute la journée, il est envahi, il est agressé, il est acculé par la société de consommation des mass médias. À 100% de sa vie, de sa journée, il n'a pas le temps de se pencher sur les questions existentielles. Il n'a pas le temps de se mettre et de se confronter à la vérité, de se demander, est-ce que je vis pour la vérité? Est-ce que je vis pour le Emet? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Les Bnei Israël, pourquoi ils n'ont pas pu entendre? Pourquoi ils n'ont pas pu écouter quand ils étaient en Égypte? Comme ça, il nous dit le Ramchal à la Vachalom, ils étaient acculés par le travail. Rabotai est quelqu'un qui est acculé par le travail. Son cœur et son oreille ne sont pas réceptifs pour pouvoir se rendre à l'évidence. Il ne peut pas faire ce travail de cette shmiat alev, de cette shmiat à ozen. Il ne peut pas écouter, il ne peut pas intégrer et faire pénétrer les choses à l'intérieur de son cœur. Et de la même façon, les peuples des nations, le monde entier était là, ils ont assisté à ce concert merveilleux. Kakadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer rouge, il a fait des miracles prodigieux, il a puni les Égyptiens. Regardez Amalek, nous dit le Midrash Rabbah dans Parashat HaShavua de la semaine dernière. Midrash Rabbah nous dit Amalek, c'est des gens qui sont fous. Amalek, c'était le premier ennemi du Yam Israël. C'est eux qui sont venus attaquer les Bnei Israël une fois qu'ils se sont constitués comme peuple au sortir d'Égypte. Marboul, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu ce qui est arrivé aux Égyptiens? Ils ont ramassé Treha Fras 10 fois, ils ont pris des Treha, ils leur ont donné les Makot, ils leur ont donné Makat Bechorot, la Barade, les bêtes sauvages, ils les ont terrassés. Toi, tu vois ce qui est arrivé à ce peuple et tu es capable d'aller attaquer les enfants choyés et bénis d'Akadosh Baruch Hu, mais tu es fou. Comment tu peux arriver à une chose pareille? Yitro, il a vu ça. Il s'est dit, regarde ce peuple-là, ce peuple de Marboul. Ils ont été capables d'attaquer les Bnei Israël après tout ce qu'ils ont vu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas médité. Ils n'ont pas intégré. Ils n'ont pas vécu les choses à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas posés dans la réflexion, dans cette compréhension de la vie. Ils ne se sont pas posés les questions. Regarde à quoi je peux arriver si jamais moi aussi je ne me pose pas les questions existentielles de la vie. Regarde comment je peux arriver, où c'est que je peux tomber tellement bas, comment je peux me faire esquinter. Quand il a entendu ça d'un côté, il a vu le contre-exemple. D'un autre côté, il a vu Kiryat Yam Souf, c'est quoi? Les miracles qu'on fait pour ceux qui décident de s'attacher à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que ces gens-là vivent les Ma'ala Minateva. Rabotai, il faut que vous sachiez une chose. Quelqu'un qui est capable de vivre avec Akadosh Baruch Hu, il va vivre toute sa vie avec des miracles. Quelqu'un qui vit entièrement avec Hachem, il vit avec des miracles. C'est une anaga qui est les Ma'ala Minateva. Akadosh Baruch Hu ne se comporte pas avec nous comme il se comporte avec les peuples des nations. Hachem, il a une Ashgaha Pratit, il nous gère à nous comme ses enfants uniques. Comme si on était seul avec lui. Quelqu'un qui vit entièrement avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a vu comment Akadosh Baruch Hu se comportait avec Kiryat Yam Souf. Il a vu comment quelqu'un qui ne va pas avec Akadosh Baruch Hu comme Amalek, qui ne tire pas le moussard, il peut se retrouver à attaquer les enfants les plus précieux du monde. Et ils vont se faire punir, ceux-là, ils vont se faire terrasser parce qu'ils attaquent les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit là, à ce moment-là, il a pris la décision de faire Teshuva. Moraï Verabotai. Les oreilles, elles captent le son. Ça pénètre à l'intérieur de l'homme. À partir du moment où tu as capté avec ton oreille quelque chose qui t'a bouleversé, quelque chose qui t'a ému, comme tu es en train d'écouter un shiur de Torah. Et moi, je vous dis, je ne suis pas venu vous faire du moussard, je suis venu me réveiller à moi, je suis venu me faire du moussard à moi, je vous assure que ça me fait du bien. C'est une psychanalyse merveilleuse de vous retrouver. Bientôt, je vais m'allonger dans le canapé et tout ça, ça va être très sympa. Quelqu'un qui vient, Rabotai, quand on écoute des paroles de Moussard, ça nous traverse. T'as écouté quelque chose, tu peux sortir de ce chiour et tu peux rester le même. Moi, je peux sortir de ce chiour, j'ai dit ce chiour ce soir devant vous, et je peux rester le même. J'ai capté avec mon oreille ce que j'ai dit, j'ai entendu cette chose-là, j'ai fait Shmi Atahozen. Mais si jamais j'arrive pas chez moi, ou que j'arrive pas dans ce chiour et que je commence pas à prêter mon cœur à recevoir les paroles de vérité, et à vivre en phase et en adéquation avec elles, je dois me répéter cette chose-là, la faire vivre, la faire réveiller, susciter le changement à l'intérieur de moi. Rabotai, c'est ce que Yitro il a fait. Il a entendu Kiryat Yam Souf. Il a entendu la guerre contre Amalek. Il s'est assis, il s'est posé. Il a commencé à méditer, à réfléchir et à se poser les vraies questions. Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je suis dans cette vie? Qu'est-ce que c'est l'Ebné Israël? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait aux Égyptiens? Pourquoi il leur a fait ça? Comment se sont comportés les Égyptiens? Il a commencé à se poser des vraies questions, Rabotai. Et à ce moment-là, on comprend la différence qui existe entre des personnes qui écoutent la vérité et qui vivent aux antipodes de cette vérité. Et des personnes qui écoutent la vérité et qui décident de vivre avec cette vérité. C'est quoi? Il a écouté avec l'oreille, mais est-ce qu'il a écouté avec le cœur? Est-ce qu'il a vécu les choses? Est-ce qu'il a ressenti les choses profondément? Rabbi Yonah, il nous rapporte quelque chose de merveilleux. Rabbi Yonah, c'était un Rishon qui vivait en Gironde au XIIIe siècle. Il a écrit un livre qui s'appelle Shari Tshuva. Il nous ramène une Gemara dans Masechet Baba Kama. À la page 85, folio B, la Gemara dans Baba Kama nous dit que si quelqu'un il vient et il crève l'œil de son prochain, il a un dîme qui doit lui rembourser l'œil. S'il lui casse une épaule, il doit lui rembourser une épaule. Si jamais il lui casse le tibia ou le péroné ou le cubitus, il doit lui rembourser la chose qui lui a la valeur de la chose qui lui a cassé, il doit lui rembourser. C'est comme ça le dîme dans la Torah. Mais par contre, Rabotai, si quelqu'un vient et crève le tympan de l'autre, qu'est-ce qu'il doit lui réparer? Il doit lui payer la réparation de tout son corps. De là nous apprend la Gemara dans Bava Kama qui est rapportée par le Rabbeinu Yonah. L'oreille, ça qualifie beaucoup plus l'homme que l'œil qu'on qualifie l'homme. Si jamais tu crèves l'œil, ben tu dois lui rembourser l'œil. Tu crèves l'oreille, c'est toute la dimension de l'humanité, toute la relation de l'homme avec Akadosh Baruch Hu, toute la relation de l'homme avec son prochain qui va venir être déstabilisée complètement. Pourquoi? Parce que cette oreille, c'est celle qui te permet d'entendre, d'écouter, de faire entrer le son. C'est la première chose qui te permet d'avoir un contact avec la vérité, avec l'extériorité. Sans ça, tu ne peux pas faire la voix dans ton cœur parce que tu n'as pas écouté. D'abord, tu écoutes avec ton oreille. Après, tu vis la chose avec ton cœur. Mais donc, l'oreille, c'est la chose la plus importante qui est dans l'homme. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Un midrash sur la paracha nous dit, il était une fois un homme, il est tombé d'un toit, il s'est brisé tous les membres. On peut le soigner de la même façon. Un homme, quand il a fauté avec tous ses membres, il va tendre son oreille pour écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu et pour revenir à lui. À ce moment-là, par le sroud de la tchouva, il peut soigner tout ce qu'il a cassé. Comme il dit à Israël Salanter, Kolot Shehaner Dalouk et Shal et Taken, tant que la lumière elle est encore présente, que la Neshama elle vit à l'intérieur de l'homme, il a beau avoir fait les plus grandes avérotes du monde, il a le sroud d'avoir une oreille. Il peut tendre son oreille au Torahot des Rachamim, au Torahot des Moussar, au cours de Shiurim de Torah. Il peut venir se confronter à la vérité et au Emet, et à ce moment-là, il libre à lui de revenir et de réparer tout ce qu'il a détruit. Par le sprout de quoi? Par le sprout de cette oreille. Cette oreille, elle peut venir, c'est elle qui lui permet de pouvoir écouter les paroles qui vont le remettre en phase avec la vérité, avec la réalité. Et c'est ce qu'il dit. Rabbeinu Yonah, il commente une parole de « Il est la Zaken dans Pirkei Avot ». Il mène un nili-mili. Si jamais je ne suis pas pour moi, qui le sera? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, il écoute des paroles de Moussar, mais que quand il écoute le Moussar, il ne va pas faire ce travail. Il ne va pas faire en sorte de réveiller sa neshama pour que ce moussard, il le vive. Alors le Yitzhara, il a les moyens d'effacer en quelques instants tout ce qu'il a entendu. Ce soir, on écoute un shiur de Torah. Il y en a un, ce mzrob du Yitzhara, il nous attend à la sortie. Il fait reset, comme vous vous rappelez quand on joue à la Nintendo. Il y avait le bouton là-bas, t'appuyais sur reset. Comme ta sœur là-bas, elle passait devant l'écran, t'étais à Kidikarus dans le dernier monde en train d'envoyer des flèches sur les gars. Et ta sœur là-bas, elle passe, elle a débranché la péritelle, elle t'a fait... C'est fini. C'est reset, Rabotai. T'appuies, tu effaces tout ce que tu as fait. C'est terminé. Tu as perdu toute la mémoire que tu avais. C'est ce qu'il nous explique ici. Cet Avoda Balev, c'est quelque chose qui permet de pouvoir intégrer ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu, et qui permet de ne pas faire en sorte que cet illusionniste invraisemblable, cet anesthésiste le plus grand du monde qui s'appelle Yetzera, il peut te faire oublier tout ce que tu as entendu. Ça, c'est le travail du Moussard, que quelqu'un il doit faire en sorte d'intégrer les choses, de les vivre et de les écouter. C'est ce que nous dit la Mishnah aussi, qu'un tzaddik, quand il écoute des paroles de Moussa, c'est quelque chose qui est pur et qui est raffiné, mais par contre un racha, quand il écoute cette chose-là, ça reste sensible en lui que pendant un petit instant. C'est pour ça qu'ils nous disent les balais Moussa, quand quelque chose ça t'a touché, tu dois l'écrire. Rav Israël Salanter, il disait toujours, si quelqu'un il a ressenti quelque chose de merveilleux quand il a entendu une phrase de la Torah, ou quand il a ressenti quelque chose de précieux et de profond, alors il doit l'écrire et chaque jour il doit le répéter. On voit Rav Israël Salanter, le Gaon de Vilna. Rabotai, vous savez qui c'est le Gaon de Vilna? Il connaissait toute la Torah de Aleph Atav et de Tav Aleph. C'était un génie incroyable. Vous savez ce que c'est toute la Torah de Aleph Atav et de Tav Aleph? Ashriya Jebetecha, on ne sait même pas le dire à l'envers nous. Lui, il connaissait toutes les cifres Torah, toute la Torah Kula, la Gemara, le Zohar, toutes les choses à l'endroit et à l'envers. C'est quelque chose d'invraisemblable. Un jour, on l'a trouvé toute une nuit en train de répéter la même phrase. Il l'a trouvé la nuit, il l'a retrouvé le matin, il était en train de répéter toute la nuit, il a répété la même phrase. Ah, vous voyez, c'est le Gaon de Vilna. Il sait te dire toute la Torah Kula, il peut la réviser en une nuit, il peut te réviser toute la Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de répéter une phrase pendant 56 fois, 500 000 fois? Pourquoi il répète ça? Parce qu'il veut le faire rentrer dans son cœur. Ça ne suffit pas de le savoir. La Torah nous dit quelque chose, un principe fondamental et fondateur. Veyadata yom vashevota levavecha. Avodai, c'est la base de toute la Torah Kula. Quelqu'un qui veut être un vrai Oved Hashem, un vrai serviteur du Créateur, qui veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu et émettre avec tout son cœur, avec toute sa foi, avec tous ses membres, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, comment tu dois faire? Tu dois faire en sorte de ressentir et de vivre les choses. Veyadata yom, tu sauras la chose avec ton intellect, Vehashevota, Levavecha, tu la ramèneras à ton cœur. Rabota, il y a toutes sortes de charlatans et de marboulim qui connaissent et qui font des études de Talmud, les types, c'est des étudiants de Talmud. Rabota, on a vu des gens qui fumaient des cigarettes en train d'étudier la Gemara le Shabbat Kodesh. C'est des grands chachamim, ils savent très très bien les choses. Vehadata yom, ils savent. Vehashevota, Levavecha, ils n'ont pas intégré la chose. C'est là la différence entre quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu et quelqu'un qui est un grand savant. La Torah, Gdosha, ce n'est pas une science. La Torah, c'est un mode de vie, encore une fois. Yitro, il a compris cette chose-là, il a vécu cette chose-là, il se l'est répété. Il l'a fait rentrer profondément à l'intérieur de lui-même. Un homme, il doit faire deux choses. De la même façon, quand il est en train de manger, il doit d'abord mâcher, après il va digérer. De la même façon, quelqu'un qui est en train de vouloir manger des fruits, il va récolter, et il va semer, après il va récolter, de la même façon. Quelqu'un, il doit d'abord écouter avec son oreille, c'est en deux temps, et après avec son cœur. Il a entendu quelque chose qui l'a touché, il doit le marquer. Maintenant qu'il a marqué, il va se le répéter. Il va le répéter pour le faire vivre à l'intérieur de lui. Rabotaï. Le monde entier, il est resté insensible à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont entendu. Est-ce qu'on n'est pas, pareil, nous aussi, parfois? Est-ce qu'il y a des fois, on n'est pas bouleversé par quelque chose? On entend, Chas v'Shalom, la disparition d'un proche, ou d'un enfant, ou de quelqu'un qui nous, un être cher. On entend cette chose-là, ça nous ébranle. À ce moment-là, on veut revenir Bitshuva. Ou par exemple, on assistait à un grand miracle. Tu vois, chacun, il a eu des miracles dans sa vie. Il s'est sorti d'un accident. Il s'est sorti d'un avion qui était un peu branlant là-bas. Le réacteur là-bas, il a commencé à prendre feu, tout ça. Il s'est sorti de ça. Il a eu des examens, il savait qu'il allait échouer. Il a réussi le lendemain, ses examens, il a vu, il est parti là-bas, il a... Et c'est pas possible. Alpider Hateva. C'est pas possible que j'ai réussi cette chose-là. Je savais que j'avais tout raté. Comment c'est possible? Il a vu des miracles. À ce moment-là, quand il voit ce miracle-là et tout ça, il se dit, bah, c'est un miracle, il ne faut pas que j'oublie. Et quelques temps plus tard, tu vois le type, il a oublié complètement cette chose. Il dit, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait cet avoda balev. Tu n'as pas travaillé à l'intérieur de toi. Tu n'as pas fait vivre cette chose-là. Tu n'as pas fait en sorte que ce soit quelque chose d'éternel qui se prolonge dans la durée. Comment ça se fait qu'il a été zoré? Parce que Yitro, c'est marqué qu'il a servi toutes les idoles. Vous savez, c'est marqué dans la Torah. Yitro, il a fait une déclaration. Chaque idole qu'il y avait dans le monde, Yitro l'a servi. Jusqu'à ce qu'il arrive au constat, devant l'ensemble de l'humanité, je sais maintenant que Akadosh Baruch Hu, toi tu es le plus grand Dieu de tous les dieux et que tout est nul et non avenu devant toi. Enod milevado, Hashem ou Elohim, il n'y a personne, toutes les forces sont nulles et non avenues devant Akadosh Baruch Hu. Rabota Yitro, comment c'est qu'il a été zoché de retrouver la vérité, de s'attacher à la vérité? C'est parce qu'il a servi toute sa vie, il a voulu servir les idoles. Mais il ne s'est pas compromis, il ne s'est pas perverti. Dès qu'il voyait qu'une idole n'avait aucun sens, il abandonnait. Il a servi toutes les idoles du monde. Il s'asseyait chaque jour, il se demandait, il se posait des questions. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est les maîtres? Est-ce que c'est pas le maître? Est-ce que je fais bien de servir cette idole? Est-ce que je fais pas bien? Et chaque fois, il passait à la prochaine. Rabotaï, les gens dans sa génération, il y en a beaucoup qui se sont trompés. Ils se sont pas rendus à la vérité et à l'évidence. Pourquoi? Il nous dit le Rambam, c'est beaucoup plus facile de se laisser porter par le flot et par la masse que de nager à contre-courant, d'aller contre le flot. Tu vois le monde entier, toute la majorité des gens, ils font des choses et tout ça, ben tu te laisses porter, tu ne poses pas de questions. Tu vis comme un marboule, comme un zrob là-bas, toute ta vie tu es en train de te laisser porter, te laisser manipuler par la société des mass médias, pas te laisser manipuler par la diplomatie, te laisser manipuler par les lobbies et les groupes d'influence. Tu vis pas, t'es une victime du système, tu te laisses porter par le flot. Habibi, pourquoi tu mets ton jean diesel là-bas? Parce que tout le monde met ton jean diesel. Pourquoi tu as ton iPhone? Parce que tout le monde a ton iPhone. Pourquoi tu es sur Facebook? Parce que tout le monde est sur Facebook. Est-ce que tu as une personnalité, Habibi? Est-ce que tu te mets? Est-ce que tu te demandes des choses? Est-ce que tu te demandes pourquoi je fais telle chose? Ben pourquoi tu fais ça? Ben parce que tout le monde le fait. Pourquoi je suis à l'université? Parce que tout le monde le fait. Pourquoi je fais ci? Parce que tout le monde le fait. Pourquoi je porte cette écharpe Sonia Riquel avec des traits à la manière d'une abeille? Ouais, je me suis retrouvé Alain Léopard là-bas avec ce truc de Sonia Riquel. Habibi, pourquoi tu as vu ce truc de Léopard? Toi, t'es pas un Léopard, t'es un Ben Miller. Moi aussi je mets le Seigneur Riquel et tout ça, mais c'est pas grave. Ça veut dire que moi aussi je suis une victime du système. C'est pour ça que je me dis que je suis venu me parler à moi aussi. Rabbi, pourquoi t'es en train de faire ce que tout le monde fait, toi tu le fais aussi? Parce que tu t'es pas assis, tu t'es pas demandé, tu t'es pas posé les questions. Yitro, comme toute sa vie, s'est habitué à vivre avec la vérité. Il recherchait Belev Shalem, Belev Be'emet, s'il voulait vivre avec la vérité. À un moment, il est venu et qu'il a vu la vérité devant ses yeux, qu'il a vu cette chose-là, il a dit, ça y est, maintenant je vois qu'Akadosh Borouhou, c'est Gadol Hashem Mikol Elokim. Il a essayé de chercher toutes les contradictions, comme il avait fait avec toutes les idoles. C'était un homme expérimenté, un homme très sage, le plus grand philosophe du monde. Il arrive, il a dit, cette fois-ci, il n'y a plus de faille. Je dois vivre avec la Torah. Ah, mais le monde entier va être contre moi, on va me balancer des œufs, on va me balancer des tomates, on va se moquer de moi. Je n'aurai plus tous les chassidim, personne ne se prosternera devant moi. Je vais me retrouver comme un marbon d'Irasso dans le désert, en plein milieu du désert, tout seul. Qu'est-ce que je vais devenir? Personne ne va me parler de moi, c'est pas grave. Je trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il me faut. Je trouve grâce aux yeux du monde, de celui qui a dit et ce que le monde fut et que le monde il a été, ça me suffit. Comme dit la Gemara dans Maseret Eduyot à la 5e Mishnah, 6e chapitre. 5e chapitre, 6e Mishnah, je crois. Mieux vaut passer toute sa vie pour un fou devant les hommes du monde entier que d'une seconde pour un rachat devant Akadosh Baruch Hu. Yitro, il a vécu cette chose-là, il a vécu avec l'Emet toute sa vie, il a recherché, il a voulu vivre avec ça, il a réussi à trouver Akadosh Baruch Hu. Il ne servait pas machinalement les cultes méprisables. Pas comme tous les gens du monde qui allaient, voilà, tout le monde sert cette idole, allez, on se prosterne devant l'idole. Il faut faire les besoins devant cette idole-là, on fait les besoins devant cette idole. C'était ça l'idolâtrie de l'époque, il y avait des idoles incroyables. Les gars, parfois, ils mangeaient beaucoup d'aubergines et beaucoup de trucs, et ça, le symbole de cette idolâtrie, c'était de faire les besoins devant. Tout le monde fait ça, ben nous aussi, on va faire cette chose-là. Habibi, t'as pas vu que c'est complètement méprisable? Et c'est dégradant pour ta personne. C'était quoi cette idolâtrie, Rabotaï? Cette idolâtrie, un jour, j'avais un ami qui m'avait dit, que c'est les gens, pourquoi ils adhéraient à ça? Parce qu'ils voulaient vivre dans l'abandon des mœurs. Quelqu'un qui est capable de faire une telle chose, de se dégrader, de se mépriser à tel point qu'il n'a même plus de kavod et d'amour propre, c'est quelqu'un qui veut vivre dans l'abandon des mœurs. Et c'est marqué, la Gemara nous dit Eved Befkera Nihale, un serviteur dans l'abandon des mœurs, ça lui plaît de vivre. Parce que quand il doit se prendre en main et vivre avec le Emet et la vérité, ça le responsabilise. C'est un homme important, c'est un Ben Meler, c'est une fille de roi, c'est un fils de roi. Il a un kavod, un prestige à tenir, c'est un ambassadeur. C'est quelqu'un qui doit toujours faire attention d'être propre. Quelqu'un qui doit toujours faire attention de peser ses mots. De ne pas libérer le tigre qui est en lui, à la manière de Frostis. Le gars, il arrive chez lui après une... il arrive chez lui le ça. Vous vous rappelez de Frostis avec le bandana Tony, là? C'était le tigre, là-bas. Avec le paquet de commandes flex bleu et tout ça, Kellogg, c'est le tigre est en toi. Alors, le type, tu vois, il arrive. Le soir, il a passé une journée difficile, il s'est fait bombarder au travail. Et sa femme, là-bas, elle a attendu toute la journée. Et là-bas, elle lui a dit quelque chose de normal. Et lui, toute la journée, il a voulu faire bonne impression devant les autres et tout ça. Ouais, tout va bien et tout. Alors il va libérer le tigre qui est en lui, il va le libérer sur sa femme. Marbona dira ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là? Elle n'a rien fait. Mais le type, il n'a pas réussi à se dominer, il n'a pas réussi à faire en sorte de se dépasser. Il n'a pas fait cet avoda. En bouteille, on peut devenir des bémotes. Les types, ils aiment bien vivre dans l'abandon des mœurs parce que c'est difficile de tenir sa langue. C'est difficile de ne pas libérer le tigre qui est en toi. C'est la galoute, c'est la grandeur d'un homme et d'une femme. D'arriver à faire en sorte de se dominer, de se dépasser. Mais c'est difficile. Pas tout le monde est capable de faire une chose pareille. C'est pour ça que les types, ils faisaient leurs besoins devant les idoles. On n'est rien, on est de la poussière, on est de la pourriture. Si jamais tu ne te considères pas et que tu te méprises, ben tu peux faire des choses qui sont négatives et toutes sortes de choses. Mais si tu sais que toi, tu es quelqu'un de rachouf, tu sais ce que tu es un Ben Meler, une Bat Meler, le fils du roi Melech Malchei Melachim. Je suis l'enfant choyé d'Akadosh Baruch Hu, c'est mes chayev aussi. Je dois être un exemple pour les nations, un exemple pour mes frères, un exemple pour les gens qui sont autour de nous. Amodai, ça c'est quelqu'un qui a décidé de vivre avec la vérité, avec Akadosh Baruch Hu. Yitro, c'était quelqu'un comme ça. Et le Yetzera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une âme redoutable. C'est d'arriver à faire la disconnexion entre la Avoda de Shmiat HaOzen et Shmiat HaLev. T'as entendu quelque chose, il peut venir, il peut tout effacer. Si jamais tu ne fais pas ce travail pour vivre pour la vérité, tu es en train d'écouter un chiot, mais tu l'écoutes que d'une oreille. Tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de faire des exercices en même temps. Tu es en train d'écouter un chiot sur Internet, tu réponds à Jacqueline là-bas qui t'a envoyé 12 000 messages éclairs et tout ça. Touloulou, touloulou. Le type, il se retrouve 12 000 messages. Qu'est-ce que tu peux intégrer la chose si jamais tu n'appliques pas ton cœur entièrement au chiot? Si jamais tu ne mets pas pleinement ton cœur pour Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux recevoir la moindre des choses? Impossible. Quelqu'un qui veut recevoir, il doit se mettre pleinement. Yitro, j'ose imaginer que quand il a fait ce travail de rechercher la vérité, il s'appliquait de tout son cœur pour pouvoir démonter les thèses. Il voulait voir qu'est-ce qu'il était en train de faire, pourquoi il était en train de faire cette chose-là. Il voulait voir véritablement où c'est qu'il allait. Et Bistroudze, il a eu le grand scrut de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Rav Chaim Akadosh, Rav Chaim Ben Attar, Alav Shalom. il ramène dans le Sefer Devarim l'épisode du Ben Sorer Umoré. Ce chiot là que je vous dis, je l'ai entendu de mon maître Rav Moshe Kaplan, c'est une grande lumière d'Israël. Et ces paroles, elles sont capables de ramener les gens les plus proches de la Torah. Je vous assure, quand on reçoit cette chose-là, ça nous ébranle. Et ça peut ramener les gens les plus éloignés, les plus... C'est ce qui me fait toujours penser que c'est quelqu'un de très très grand. Quelqu'un qui a l'esprit de pouvoir dire des paroles qui peuvent toucher le cœur des gens les plus éloignés comme les plus proches. C'est que cette parole, c'est la parole de Divrei Elokim Chayim d'Akadosh Baruch Hu. Le Ben Sorer Umoré, c'est un enfant qui s'appelle le fils glouton et rebelle. Cet enfant-là, c'est un enfant qui s'est perverti et qui s'est sorti du chemin. Il n'écoute pas les ordres de ses parents, il n'écoute pas les ordres d'Akadosh Baruch Hu. La Torah nous dit « Eneno shomea et kol aviv et kol imo ». Il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. Je vous dis quelque chose en passant, un clal pour l'éducation. Un jour on nous dit « C'est quoi un Ben Sorer Umoré ? » C'est quelqu'un qui n'a pas écouté la voix de son père et la voix de sa mère. Il dit « Pourquoi c'est marqué ? » Il n'a pas écouté la voix de ses parents. Pourquoi il est devenu Ben Sorer Umoré ? On dit que les parents, ils ont une responsabilité dans ça parfois. Pourquoi ? Pour que l'enfant il soit Ben Sorer Umoré, il faut que les parents ils aient eu la même voix. C'est quoi le même son de voix? C'est difficile de trouver un homme et une femme qui ait le même son de voix. Il y en a un autre commentateur, il va dire c'est quoi la même voix? Ça veut dire qu'ils ont parlé dans la même direction. Un enfant, si jamais il n'a pas eu la même son de voix pour les parents et les enfants, ça ne s'appelle pas un Ben Sorer Umoré. Le Ben Sorer Umoré, ce fils glouton et indocile, c'est il est Hayav Mita, on doit le tuer. La Torah nous dit Yamut Hayav Aliyamut Zakai. Il doit mourir, Yamut Zakai va Yamut Hayav, il doit mourir méritant, tant qu'il n'a pas fait de bêtises. Pourquoi? Parce que ce mzrob là, tous les jours, il doit manger un tartemar shel basar et boire un loc de yaïn. Il se boit un bon verre de un ballon de rouge là-bas, du Beaujolais nouveau. Tous les jours, il se boit du vin. Et tous les jours, il va se manger un gaucho là-bas, une bonne viande et tout ça. Tu vas la mettre là-bas sur l'escalope de la pampa, là-bas, une bonne viande qui te coule sous la dent. Et tous les jours, il va vouloir manger. Il va piller ses parents, il va leur voler leurs ressources. La Torah nous dit, Yarda, a Torah, besov, dato, shel adam. Elle est descendue dans les profondeurs du cœur de cet enfant. Et elle sait que si un jour cet enfant-là n'a plus les moyens nécessaires de pouvoir assouvir ses besoins, qui sont des besoins royaux et des besoins aristocratiques, il doit boire du vin et manger de la viande tous les jours, ça coûte beaucoup d'argent, il va se retrouver à la croisée des chemins et il va détrousser des gens, il va les tuer, il va leur dire la bourse ou la vie. Si quelqu'un il veut s'énerver contre lui, il va le tuer pour le voler. La Torah nous dit cet enfant-là, il vaut mieux qu'il meure maintenant pendant qu'il n'a pas fait de Averot, qu'il n'a pas tué quelqu'un, plutôt qu'il vive et que dans les mauvais chemins dans lesquels il s'est engagé, il va continuer à faire des choses qui sont très graves. La Torah nous dit, quand est-ce que le Ben Sorer Umoré, il doit être condamné à mort? C'est si jamais il n'a pas entendu la voix de son père et de sa mère. Qu'est-ce que c'est la voix de son père et de sa mère? C'est une voix qui est chavine, c'est une voix qui est semblable. Nos commentateurs nous disent, c'est quoi la voix de son père et de sa mère qui est? C'est quand les parents, ils ont parlé de la même façon. Et c'est quoi qu'ils ont parlé de la même façon? Quand est-ce qu'un Ben Sorer Umoré, il peut être Ben Sorer Umoré et que ce n'est pas de la faute de ses parents? C'est si jamais le père, il a dit une chose et que la mère, elle a dit quelque chose d'autre. Si le père, il a dit par exemple de garder la Torah et la mère, elle a dit « Habibi, va au Pacha là-bas, de Ibiza là-bas, prends-toi un Malibu Light ou Malibu Coco et tout ça ». Prends-toi les cerises là-bas, tu te les mets derrière ton oreille, tu vas t'allonger là-bas sur la plage de Freshman et Freshman de Halim Fitchamsoula sur la plage. Et là, que le père lui dit, non, mon fils, c'est ça, il faut que tu ailles étudier un peu à la Yeshiva, tu dois étudier la Torah, tu dois te renforcer, il faut servir Hachem. Tu te rends compte tout ce qu'on lui doit, Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait pour nous, c'est tellement merveilleux. Et Nenou, Shomea, Bekol Aviv, Bekol Imo. Si jamais la voix des parents, elle est semblable, qu'elle va dans la même direction, alors là, c'est la faute de l'enfant, alors il est Ben Sorer Umoré, il est condamné à mort. Mais si jamais cet enfant-là, la voix des parents n'est pas chavine, elle ne va pas dans la même direction, elle n'abonde pas dans le sens. Qu'est-ce que tu veux que ce fils-là, il puisse être équilibré si jamais il entend deux parents qui sont en contre-courant et qui sont en train de faire des courses toute la journée à la maison? Cet enfant-là n'est pas condamné. Pourquoi? Parce que c'est ses parents qui sont fautifs. La Torah nous dit, Eneno Shomea Bekolavi Bekoli. C'est quoi Eneno Shomea? On n'a jamais vu une phrase comme ça dans la Torah. Généralement, quand on veut dire qu'il n'écoute pas la voix de ses parents, on lui dit Eneno Shomea. Il n'écoute pas. C'est quoi Eneno Shomea? Or, Rachaïm Akadosh nous dit pourquoi cet enfant glouton et indocile n'écoute pas la voix de ses parents. Parce que le Yetzer il est venu se mettre à l'intérieur de lui. Il est venu se mettre à la manière de Olivier Tom, le gardien de but là-bas. Il s'est mis dans les cages. Et dès que tu es en train de lui dire une bonne parole de Moussard, il est en train de te faire partir un coup franc là-bas du milieu de terrain dans la lucarne. Et là-bas, il y a ce goal là-bas, ce mzrob du Yetzer. Il s'est mis là-bas dans les cages et il est en train d'arrêter les buts. C'est quoi les buts? C'est les paroles de Moussa, les paroles de vérité qui viennent dans le cœur de l'homme. Celui-là, il s'est trouvé hermétique. Et Neno Shomea, parce qu'il y a ce Yetzerara qui est entré à l'intérieur de lui, qui s'est posté à l'entrée de la porte de son cœur et qui l'a rendu hermétique à la lumière de la vérité. Il n'a pas voulu écouter cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il est là. On est en train de lui faire partir des flèches, mais l'autre là-bas, il les capture. Mashalema Davardome. Il nous dit Lo Achaim Akadosh, Rabotai, c'est merveilleux la Torah Kdusha. C'est Mechaye, ça nous fait vivre. Ça nous fait vibrer la Torah Kdusha. Il n'y a pas quelque chose comme la Torah, Rabotai, je vous assure. Quand on dit un jour de Torah, on a envie de se rouler par terre, tellement c'est merveilleux. Écoutez ce qu'il dit Lo Achaim Akadosh, Mashalema Davardome. Il dit ça ressemble à des hommes qui avaient volé le roi. C'était les gardes du palais. Ils avaient fait un vol. Il y avait deux hommes, il y avait un homme valeureux là-bas. Il a voulu aller chez le roi pour dénoncer ces malfrats là-bas qui avaient volé le roi. Il a voulu aller les dénoncer, il a voulu rentrer dans le roi pour lui dire « Mon roi, je sais qui c'est qui vous a volé les choses et tout ça, il faut les punir. » Ils sont allés à contre-courant du kavod de la royauté, de la majesté, tout ça. Moura il verra Botaï. Est-ce que vous pensez que ces deux gardes là-bas qui sont les responsables, ils vont lui laisser rentrer à l'intérieur du palais pour aller dire au roi que c'est eux les voleurs? Il dit de la même façon. Il dit, ces gardes du palais là, c'est le Yetzerara. L'homme qui est de bonnes intentions, c'est quoi? C'est les paroles de Torah et les paroles de vérité. L'homme qui est le roi, c'est toi. Toi, tu pourrais revenir à la vérité, tu pourrais savoir les choses. Mais est-ce que tu crois que ce Yetzerara, il va te laisser rentrer les paroles de Moussa, les paroles de la lumière, les paroles de celui qui va te ramener à la raison? Il veut pas. Et neno shomea et kol aviv et kol imo. Et c'est ça justement que ces réprimandes de la Torah et cette voix des Talmidei Chachamim et des Tzadikim à laquelle on peut tendre l'oreille encore une fois, Vaishma Yitro, il a écouté Yitro les paroles de son beau-fils Moshe Rabbeinu, que ces paroles elles l'ont ramené par l'intellect et par le cœur. Il a été Moshe Chotam dans la vérité. Il a tendu son oreille, il a voulu écouter, il a eu Shmia Taozen Rabotai. Il a écouté ses réprimandes pour les faire intégrer dans son cœur pour pouvoir justement avoir accès à cette Teshuvah Shelema. Maintenant on comprend ça, maintenant on comprend très bien ce qui se passe. Comment ça se fait que cette paracha elle s'appelle Yitro? Comment ça se fait que cette paracha Yitro y a eu le sroot d'être celui qui a été la paracha de Mahamad et Arsinaï, du don de la Torah au Mont Sinaï? La réponse elle est très simple. On voit que Yitro c'est celui qui a reconnu Akadosh Baruch Hu, qui a découvert Hashem Yitbarach, qui a eu le sroot de s'attacher à Hashem Yitbarach. Il a eu ce grand mérite là. Il nous a montré le chemin pour pouvoir découvrir la vérité et s'attacher à elle. Alors de la même façon, quelqu'un qui veut recevoir la Torah, quelqu'un qui veut vivre Matan Torah, qui veut avoir le Sroot comme Yitro, il s'est converti à la Torah, de recevoir cette Torah Kdusha et de se convertir complètement, de vivre une nouvelle vie de Torah, il doit suivre ce chemin, il doit suivre cette trace. C'est le chemin de celui qui est capable de s'asseoir, de réfléchir, de penser et de prendre des décisions et de vivre en adéquation avec les décisions qu'il a prises. Que c'est pas le Yetzerara qui va décider pour lui, c'est lui qui va décider pour lui. Il veut pas vivre en fonction de ce que la société, ce que le monde entier va penser de lui. J'en ai rien à faire de ce qu'on pensera de moi. Rabotai, pourquoi on revient pas de Bitchouva entre nous? C'est parce qu'on a peur du regard des autres. Comment elle va me regarder là-bas, Tata Saada là-bas, Tata Mzroba là-bas, elle va me regarder, le type il arrive avec la jupe longue et tout ça, elle commence à s'habiller à la mode de Mehacharim, comme une Sadekette. Alors qu'avant elle arrivait avec son short du jardin japonais là-bas. Du comptoir des cotonniers, tout ça, t'arrives et tout ça, ça va, tu vas bien et tout, tranquillou, Marilou. Et le type il arrive là-bas avec sa gandoura là-bas, son manteau là-bas, sa doudoune de The Couples avec les poils de chèvre et de lapin. Tu vois ces poils là qui sont sur toi et tout ça, t'as l'air d'être quelqu'un de très à la mode. Le lendemain tu te ramènes là-bas avec ton costume bien classe et tout ça. Il dit, Khabibi, t'as perdu quelqu'un, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en deuil ou quoi? Pourquoi t'es devenu comme ça? J'ai peur du regard des autres. J'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Rabotai Yitro, il a été capable de vivre comme un pacha. J'en ai rien à faire, pensez ce que vous voulez. C'est vous qui allez payer après dans l'Olam Haba pour l'éternité. Je m'humilie, Rabotai. Avec Mahavruta, il m'avait dit quelque chose une fois, quelque chose de merveilleux. Rabotai, quand quelqu'un il est capable de s'humilier, de se faire honte pour les livrer Torah et pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'a pas honte du regard des autres et qu'il est capable d'aller Adassof avec Hachem. Moral Vera Rabotai, il expie toutes les fautes qu'il a fait. On lui compte dans le ciel comme s'il était mort Al-Kidush Hashem, comme s'il est mort en sanctifiant le nom de Dieu. C'est pas quelque chose de merveilleux cette chose-là? Tu sais ce que c'est de mourir Al-Kidush Hashem? C'est la chose la plus extraordinaire qui soit dans le monde et ça explique toutes les fautes que tu as faites du début jusqu'à la fin de ta vie. Khabibi, pour le regard d'un moqueur, d'un mzrob qui va rigoler de toi, est-ce que toi tu es capable de léguer tout ton Olam Haba, tout ton Olam Hazeh, parce que celui qui vit sans la Torah, il n'a pas d'Olam Hazeh, Rabotai. Est-ce que tu es capable de léguer tout ton lamadé, tout ton lama pour le regard des autres? Yitro, il a dit non, et c'est ça qui nous a montré le chemin pour recevoir la Torah déjà. La paracha de Mishpatim, elle nous enseigne aussi une mitzvah assez incroyable. C'est la mitzvah de Evet Kenani. C'est bizarre que la première mitzvah qui suit Mamad Har Sinai, la première mitzvah qui suit le don de la Torah au Mont Sinai, ce soit la mitzvah du Evet Kenani. C'est un, du Evet Ivri, pardon, du serviteur juif. Comment ça se fait? C'est une mitzvah tellement importante, la mitzvah du serviteur juif. Je vais vous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste. Le serviteur juif, c'était quelqu'un qui avait fait un vol, par exemple. Il n'a pas d'argent pour pouvoir rembourser le vol qu'il a fait. Il va se vendre à un maître. Pendant 6 années, il va travailler auprès de ce maître. Et la 7e année, il sera libéré. Bah, c'est une mitzvah, c'est vrai. On n'a pas l'impression que c'est une mitzvah qui est tellement centrale. Ça n'a pas l'air d'arriver tous les jours. Et qu'est-ce qu'on veut nous apprendre par là? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il se demandait cette question. Il a dit, Ribono Shalolam, pourquoi cette mitzvah est tellement importante pour être la première mitzvah qui a été donnée après Mahamad Har Sinai, après le don de la Torah au Mont Sinai? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le maître juif, quand il va recueillir ce déviant-là, ce délinquant qui a fait ce vol, il va lui apprendre à revivre et à s'insérer dans la société. La Torah nous apprend quelque chose ici, que nous on est contre la prison. Pourquoi? Parce que moi j'avais étudié quand j'étais en droit international et tout ça. Quand quelqu'un il est délinquant, c'est un petit délinquant, il va aller en prison et ressortir un grand délinquant. Là-bas il va apprendre le métier. La Torah elle a peur de ça. La Torah elle te dit quand quelqu'un il fait quelque chose de mal, il ne faut pas le mettre en prison pour le punir. La Torah ne punit jamais. La Torah, toutes les punitions qu'elle donne en apparence, c'est des choses qui permettent à l'homme de faire teshuvah et de se réinsérer pour mieux vivre après. Pour se réparer, c'est des réparations. Toutes les issourim, toutes les épreuves, toutes les souffrances, toutes les maladies, toutes les choses qu'on vit dans ce monde, toutes les épreuves par lesquelles on passe, ce n'est pas des punitions, c'est des réparations que l'homme il va pouvoir passer pour pouvoir se retrouver plus proche d'Akadosh Baruch Hu et plus dans le maître, plus dans la vérité. Il dit donc ce maître-là, on le vendait à un maître qui était d'une moralité très élevée. Ce maître, il va le traiter, il va lui apporter des paroles de moussard, il va lui expliquer des choses, il va lui faire vivre pour lui montrer comment c'est bon de quelqu'un d'honnête, qu'il faut payer ses dettes, qu'il faut savoir se prendre en main, qu'il faut savoir se réveiller le matin, qu'il faut savoir aller faire sa prière. Toutes les choses que le serviteur il devait faire, il lui apprenait. Malheureusement, Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit, et la Torah nous explique, une Gemara dans Maseret Kiddushin à la page 15 et à la page 22, que si jamais au terme de ces 6 années, ce serviteur hébreu, il ne veut pas retrouver sa liberté. Et vous savez que lui, il a délaissé sa famille, le type. Il y a sa famille qui l'attend là-bas et tout ça. Il attend patiemment. Et au bout de 6 ans, alors que ses enfants, sa femme et ça, ils l'attendent, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je ne veux pas sortir. Je veux rester un serviteur chez ce maître-là pour l'éternité. Les commentateurs, ils se demandent, mais Ribono Shalola, mais il est marboule celui-là. Il y a sa famille qui l'attend. Et l'autre, il dit, non, moi, je veux rester avec cette femme là-bas, cette Mzroba qui m'ont déféré une Shifra Kenanite, c'est-à-dire une femme des nations là-bas qui a été sa femme. C'était une servante du maître et ça a été sa femme. Il a cohabité avec elle et ça, il a cohabité, il a eu des enfants. Et il y a ses enfants là-bas, ils l'attendent. Imaginez-vous la Séouda qu'ils ont préparée au bout de 6 années. Comme quelqu'un qui a retrouvé ses enfants après 6 années, il était en prison, il sort imagine-toi la grande fête qu'ils ont fait. Et lui, il arrive, et le jour où il va être libéré, il leur dit, écoutez, je suis désolé de ça, ma femme et mes enfants, là-bas, la grande femme de Sadekel, déjà, je suis désolé, mais vous allez rester où vous êtes, et moi, je vais rester où je suis, moi, je préfère rester un serviteur. À ce moment-là, la Torah nous dit quoi? Je vous en prie, écoutez, les amis, parce que ça perturbe. Si vous voulez parler dehors, ça ne me dérange pas du tout. Je vous assure, moi, je vous adore, vous êtes mes frères et tout ça, mais si jamais les gens, ils ne peuvent pas écouter, alors ça me fait mal au cœur. Si vous voulez parler dehors avec plaisir, mais si jamais vous voulez écouter, écoutez avec tout votre cœur, Bézant Hachem. Alors il dit là-bas, si jamais ce serviteur Kenani, ce serviteur hébreu, il ne veut pas écouter, il ne veut pas se faire libérer, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui prendre son oreille droite et on va la perforer. Et là-bas, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il demande comment ça se fait qu'on va perforer cet homme-là. La Gemara répond, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, cette même oreille qui a entendu au Mont Sinaï, tu ne voleras pas, puisqu'il a volé, qu'elle soit donc poinçonnée. Et s'il s'est vendu lui-même, que cette oreille qui a entendu, car c'est à moi qu'Akadosh Baruch Hu, car c'est à moi que les fils d'Israël sont des serviteurs, c'est mes serviteurs et pas les serviteurs de serviteurs, puisqu'il a choisi un autre maître qu'Akadosh Baruch Hu, que cette oreille-là, elle soit poinçonnée. Ah oui, comment ça se fait que quelqu'un il peut prendre une telle décision? Comment quelqu'un qui veut, qui a toute sa vie, il attendait de retrouver sa femme et tout ça, il a vécu pendant 6 ans, il était le serviteur d'un maître. Et bon, c'est vrai qu'il a un bon traitement de faveur. La Gemara nous dit que Miché Kano Eved Kano Rabo, quelqu'un qui s'est acheté un Eved, il s'est acquis un maître à lui-même. Nous dit la Gemara que si jamais, par exemple, le maître, il n'a que du pain blanc et du pain noir, il a du pain, le pain blanc il le donnera à l'Eved, et le pain noir il le mangera pour lui. Si jamais le maître n'a qu'un seul lit, le maître dormira même le sol, et l'Eved il dormira sur le lit. Il faut considérer l'Eved ivri avec beaucoup de déférence pour pouvoir le insérer et l'éduquer de la meilleure façon qui soit. Les maîtres du Moussar nous disent, comment ça se fait que cet homme-là, il a pu tomber si bas qu'il ne veut même pas retrouver sa liberté? Les 6 années, en fait, ces 6 années, on a dit que l'homme, il doit faire en sorte d'apprendre le Moussar pour pouvoir, en fait, tout le but d'avoir un maître, c'est de se passer d'un maître. Toute la vie, quand quelqu'un, il étudie quelque chose, c'est pour pouvoir arriver à un stade où il peut se passer d'un maître. Lui, ce marbonne-là, il est fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'apprendre à se passer d'un maître, il s'est complu dans sa quiétude, dans sa paresse, dans le fait qu'il n'avait pas de responsabilité, dans le fait qu'il n'avait rien à gérer. Il avait besoin du frigidaire, il était toujours plein. Il voulait la Porsche Ferrari de son maître et de ça, il lui prêtait les clés, il allait faire un petit tour dans la Porsche Ferrari. Le type, c'est vrai qu'il était un serviteur, mais il n'avait pas de responsabilité. Au lieu d'apprendre à se responsabiliser, à se prendre en main, à écouter les paroles des Torahot de son maître, il est resté sourd. Encore une fois, la Torah nous dit, cette oreille qui aurait pu te permettre de te réinsérer dans la vie, qui aurait pu t'apprendre à devenir un homme, qui aurait pu t'apprendre à devenir meilleur par tous les cours de Moussard que ton maître il t'a donné, par... toi tu t'es pas contenté d'écouter ses paroles, tu as voulu vivre dans le luxe, dans la quiétude, dans la richesse, dans l'abondance, dans le fait de se dire, c'est bon, j'ai pas de responsabilité, tout va bien et tout ça. Encore une fois, tu as fauté avec cette oreille elle doit être poinçonnée. Pourquoi? Parce qu'on a dit que cette oreille c'était l'organe sensible et l'organe fondamental de tout le corps qui permet à l'homme d'avoir un kécher avec la vérité. Celui-là il a écouté, c'est pour ça que cette mitzvah elle a une place tellement centrale. Elle inspire le combat de toute une vie. Ce combat c'est l'abandon du confort et de la paresse, l'abandon de ce que le Yetzera il t'insuffle à l'intérieur de toi pour réussir à aboutir à la maîtrise de soi-même, Rabotai. Faire triompher le bon penchant et la volonté d'Akadosh Baruch Hu sur le Yetzerara. Tout ce travail, c'est l'étude du Moussar. Et ça commence par quoi, encore une fois? Ça commence par l'oreille. Et ça se poursuit par quoi? Ça se poursuit par le cœur. C'est pour ça que la Torah nous a donné la première mitzvah de toute la Torah Kula, nous disent les Balai Moussar, c'est la mitzvah de Mishpatim du Eved Ivri. Ce Eved Ivri qui aurait pu écouter les paroles de Torah Chod de son maître, qui aurait pu écouter les réprimandes pour pouvoir se réinsérer, se réinfiltrer dans la société, il a décidé de vivre dans l'abandon des mœurs, dans la paresse, au lieu d'aller trouver sa femme, qui est une grande sadéquette, il va devoir se comporter comme un homme très important. Parce qu'une femme qui est d'un grand niveau, il faut se comporter avec elle avec un grand niveau. Lui, il préfère rester là-bas avec cette chifra là-bas, cette marboula de la rue. Il n'a pas besoin de faire des grands efforts. Il peut aller avec elle n'importe quand, il peut faire toutes sortes de ch'touillotes, il n'a pas besoin de lui parler. C'est qu'un homme qui vit dans l'abandon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé encore une fois son oreille. L'avodat Hashem, Rabotai, ça s'appelle l'avodat Hashem, le service d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ça s'appelle l'avodat? Parce que c'est un travail constant, un travail de tous les instants. Quelqu'un qui veut réussir, il a écouté des bons livres et Torah, il a écouté quelque chose d'important, il va vouloir vivre avec ça, c'est quelque chose qui se prolonge. Quand on sort d'un shiur, c'était pas comme t'es sorti là-bas du cours de philosophie, le gars c'est bon, ça y est, ça, ils ont arrêté de nous prendre la tête, ils ont dit écoute des philosophies, le type a fait des équations produites, ça, il va aller manger une pizza, il va se dire ça y est, j'ai mangé des pizzas. Quelqu'un qui sort de son cours de Torah, il doit le vivre après. Il va arriver chez lui, il a écouté avec son oreille, il doit le sentir avec son cœur. Il doit faire cette avoda-là. Cette avoda, elle perdure, c'est pour ça que ça s'appelle avodat Hashem. C'est un travail de tous les instants. Avdut d'Akadosh Baruch Hu, se mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, vivre avec lui, c'est pas quelque chose qui est temporaire, c'est pas quelque chose que tu fais comme un loisir, pas quelque chose que tu fais comme un passe-temps. Non, c'est ma vie, je vis avec la Torah, je vis avec les dirés Torah, je pense à cette chose-là. Je veux vivre et je veux intégrer ces notions. Et c'est ce que mon maître Rav Ephraim Anidjar, il m'avait rapporté une fois au nom de son maître Rav Aryeh Finkel, le Rosh Yeshiva de Mir Barfeld, un des grands sadikim de la génération. Il dit en fait que la grandeur de Yitro, c'était qu'il a eu la Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, c'est quoi? C'est d'accomplir tout ce qu'on entend, d'accomplir tout ce qu'on sait. Quand est-ce que tu vois que quelqu'un il est raoui d'avoir la Yirat Shamaim, de recevoir la Torah Akdosha? Et c'est pour ça que cette paracha de Yitro, c'est la paracha de Mamad Arsinaï, c'est la même paracha aussi, on peut voir un lien dans ça. c'est qu'à partir du moment où toi tu es capable, c'est quoi quelqu'un qui a de la Yirat Shamaïm? C'est que tu appliques toutes les connaissances que tu as. Tu veux savoir si tu as la crainte du ciel. Il y en a qui disent, il faut voir si jamais tu trembles quand tu es devant un Kadosh Baruch Hu dans la Amida. C'est un très très grand niveau. On n'est pas à ce niveau. Tu veux voir si tu as vraiment la Yirat Shamaïm. La Yirat Shamaïm, c'est d'accomplir et d'appliquer tout ce que tu connais. Yitro, il a appliqué tout ce qu'il connaissait. Il recherchait la vérité. Quand il identifiait la vérité, il voyait que c'était le maître, il allait Adassof. Il vivait complètement dans cette vérité. C'est pour ça que cette chose-là, c'est aussi ce qu'il faut pour pouvoir vivre avec la Torah. La Torah, pour pouvoir la recevoir à l'intérieur de soi-même, pour pouvoir vivre avec elle, il faut être capable de vivre en adéquation avec tout ce qu'on connaît. C'est ce qui fait la différence, encore une fois, entre un savant des sphères profanes et entre un talmid chacham, entre un tzaddik, entre quelqu'un qui vit sa Torah, qui vit comme un Eved Hashem, quand bien même il serait à l'université, quand bien même il serait à l'université, quand bien même il serait dans le monde des affaires, quand bien même il serait n'importe où dans la vie, il peut vivre avec Akadosh Baruch Hu. Rabotai, on a vu des gens qui travaillaient, qui étaient des tzadikim yesod olam, les 36 âges sur lesquels la génération elle repose. Je connaissais quelqu'un, mon maître Rav Chaim Tapiro à la yeshiva de Rav Chaim. Il avait un rav à lui, qu'il a découvert que c'était un rav, au début c'était un diamantaire. Le type, il a découvert que c'était un tzadik yesod olam, il travaillait avec une honnêteté, une profondeur tellement grande, et quand il avait du temps, il le consacrait à l'étude de la Torah. C'est devenu une sommité extraordinaire, c'est devenu une lumière incroyable. Rabotai, tu vois, c'est un homme simple. Comment c'est possible que cet homme-là, il soit capable de faire de tellement grandes choses? Parce que son cœur, il applique à faire en sorte que tout ce qu'il connaît, il le fait. Via data yom, je sais les choses, mais ça ne suffit pas. Via shevot alecha, je les ramène dans mon cœur. Je les ramène pour vivre et pour pouvoir vivre avec cette chose-là. Pour terminer, on voit dans le... Quelqu'un qui veut vivre avec la vérité, quelqu'un qui veut vivre pour la Torah, il doit être prêt à se sacrifier pour la Torah, à vivre entièrement avec la Torah. Et il faut savoir que ce n'est pas un sacrifice. Comme un jour, on est venu demander à une femme, elle est venue demander au Chazon Ish, qui était le maître de la génération passée. Il y a des photos des Gdolim dans ce Sefer qu'on a écrit avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. On a voulu faire en sorte que tous les gens du monde puissent savoir qui sont les grands tzadikim, parce que parfois on dit le Chazon Ish, le Rav Moshe Feinstein, le Rav Finkel, tous ces Ravi Baruch Toledano. C'est le Chazon Ish, vous avez dû le voir, c'était le grand maître de Bnei Brak à la création de l'État, c'était une sommité extraordinaire. Un jour, ils sont venus, une fille, elle est venue voir le Chazon Ish. Elle a dit, Moreno Arav, je voudrais savoir jusqu'à combien un homme il doit être prêt à se sacrifier pour se marier avec un Talmid Chacham. C'est comme ça, il lui a demandé. C'est difficile. Tu vas vivre à Bnei Brak, par exemple, ou à Meacharim et tout ça. Peut-être que tu ne vas pas vivre dans le confort, dans le luxe des hôtels 12 étoiles et tout ça. Tu ne vas pas être... comme un grand pacha et tout ça, mais Rabotai, je vous dis, on est les plus riches et les plus grands milliardaires du monde, c'est nous. Celui qui a la Torah et qui vit avec Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand milliardaire du monde. À Wall Street, les gars, je les vois, moi. Parfois, je vais aux États-Unis ou je vais dans les pays, je tourne et tout ça, je vais à Londres, à la City, je rencontre des gens qui sont très très riches. J'ai pas vu des gens qui sont aussi heureux que les gens qui étudient la Torah de chat. Tu vois, le type, parfois, il a la mine de Tchabeb à Pourim. Comment c'est possible? Toute la journée, il est prêt avec sa tête là-bas de Tchabeb. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Rabotai, il a tout, mais il a rien, il ne vit pas avec le Hémet. Toi, tu n'as rien, mais tu as tout, tu vis avec Akadosh Baruch Hu. Chazon Ish, quand elle est venue, lui demander jusqu'à combien il faut être prêt à se sacrifier pour vivre avec un Talmid Chacham. Peut-être tu vas manger du pain. Bah, au Hachem, aujourd'hui, je vous assure, je vois des amis et des gens et tout ça. Hein. C'est plus la période de pauvreté. Quelqu'un, il peut vivre dans la Torah et bah, au Hachem, être mistader de vivre dans des conditions très décentes. C'est pas vrai que les gens ils crèvent de faim et tout ça. Bah, au Hachem, Akadosh Baruch Hu s'occupe de chacun. Comme je l'ai dit au début du shiur, quelqu'un qui vit avec Akadosh Baruch Hu, les malaminateva, Akadosh Baruch Hu se comporte avec lui au-delà des lois de la nature. Et Baruch Hashem, c'est le plus heureux du monde. Mais à cette époque-là, c'était difficile. Chazon Ish, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabotai? Il lui a répondu, si jamais tu penses que c'est un sacrifice de te marier avec un Talmid Chacham, ne te marie pas avec lui. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est la plus grande richesse qui soit. Si tu ne perçois pas ça comme un signe de majesté, un signe de kavod, de soutenir celui sur lequel le monde y repose, celui qui diffuse la lumière de la Torah dans le monde entier, celui qui va faire venir les enfants sur lequel le monde entier y repose, sur le souffle des enfants qui étudient la Torah, le souffle pur des Tinokot, Shel Bedrabad, Rabotai. Si jamais tu n'as pas conscience que ça c'est le plus grand kavod du monde, et ce n'est pas un sacrifice, Habibi. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Si tu n'as pas conscience de ça, ne fais pas, parce que tu ne pourras pas être heureux. Si tu as conscience, par contre, que ça c'est le plus grand kavod qui soit, alors vas-y. Quelqu'un qui veut vivre avec la vérité, comme on voit, comme Yitro qui a découvert Akadosh Baruch Hu, comment il a eu le sroute? Parce qu'il a été capable de vivre Adassor avec Akadosh Baruch Hu. Il ne s'est pas posé de questions. Il s'est jeté à corps perdu. Il s'est jeté à bras ouverts sur Akadosh Baruch Hu. Il est allé Adassor avec Akadosh Baruch Hu. Il a vécu avec la vérité entièrement. Comme on raconte sur Ruth, Orpa et Naomi. Vous savez que Naomi, elle avait deux belles filles, s'appelaient Ruth et Orpa. Ces deux belles filles-là, malheureusement, c'est des femmes qui se sont converties, des Moabites. Elles se sont converties, et Baruch HaShem, elles se sont mariées avec des gens. Et ces gens-là, ils sont morts. Chacun, il a perdu son mari. Elle, elle a perdu son mari, et ses deux fils qui étaient mariés donc avec ses deux belles filles sont tous niftarim. À ce moment-là, Ruth à Moabia, et Naomi, elle est venue voir ces deux belles filles, elle leur a dit, écoutez, vous êtes libres, je vous permets de repartir et d'aller là-bas dans le désert et tout ça, et de faire votre vie. Il dit, parce que maintenant, il y a la famine, il n'y a plus de Bnei Israël, les Bnei Israël, ils ne peuvent pas se marier avec vous parce qu'il y a la famine, et donc si jamais vous ne pourrez plus vous marier avec des Bnei Israël, et moi, si jamais vous voulez vous marier avec mes enfants, moi je suis trop vieille, donc je ne pourrai pas avoir d'enfants, donc vous êtes libres, allez faire ce que vous avez à faire. Rabotai. Ruth et Orpa, elles ont écouté cette chose-là, elles ont pleuré tous les deux, nous dit la Torah de Chat. Les deux femmes, elles ont pleuré. Orpa, elle est partie, elle a écouté la voix de sa belle-mère, elle a pleuré, ah c'est dur de se séparer de toi, ma mémé, et tout ça, comment je vais faire, et tout ça sans toi, mais elle est quand même partie. Ruth, elle a écouté la voix de sa belle-mère, elle a pleuré, elle lui a dit, je resterai avec toi. Qu'est-ce qu'elle lui a dit dans la phrase ? Rakamavet y parit beni ou bener. Que la mort pourra me séparer de toi. Ah, comment c'est possible? Ces deux femmes, elles pleurent. Une, elle va d'un côté, une va de l'autre. Quelle est la différence entre ces deux gens-là? Mon maître Rav Yamin Toledano, une des grandes sommités de la génération, il m'a dit quelque chose de merveilleux. Orpa, elle pensait que la Torah, c'était en option. Elle a pleuré, c'est vrai, c'était difficile pour elle de se séparer, mais c'est pas grave, je vais aller me marier avec un homme des nations, avec un homme des peuples et tout ça. Ruth, elle pensait dans son fort intérieur à Botaï que si elle se sépare de sa belle-mère qui est l'emblème de la Torah Kdosha, c'est comme si elle se séparait de la vie. Mieux vaut mourir que de me séparer de toi, mémé. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir parce que je sais que la vie, toute la vie, c'est d'être à côté de toi. Je ne vais pas me marier, je vais vivre toute ma vie sans mari, toute ma vie sans enfant, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte pour moi, c'est de vivre avec Akadosh Baruch Hu, de vivre avec toi, de rester attaché aux enseignements de la Torah Kdosha. Rabotai, quand est-ce que quelqu'un il est capable de s'attacher à la Torah Kdosha? C'est quand il est capable de donner sa vie pour la Torah. Il est capable de donner sa vie et il comprend que c'est la Torah, ce n'est pas en option. Rabotai, pourquoi dans la génération on n'arrive pas à aller Hadassof avec la Torah? Nous les balais tchouva. Moi je vous parle ce soir, je suis venu, je suis passé par tous les chemins dans la vie, je suis pas né à Meacharim et à Bnebrak, j'avais pas les petites papillotes quand j'étais petit, je ne couperais pas, je mangeais pas des bambas à Meacharim. J'étais dans tous les endroits du monde. Je vous assure qu'il y en a, c'est rare les gars qui ont été capables d'aller à Dassof avec Akadol Borou. C'est une siat Adishmaya, moi je sais que je suis de la poussière et de la cendre, je suis rien du tout. Je sais que c'est mes ancêtres qui ont prié pour moi. Je sais que c'est l'exemple de mon père à la Vachalom qui a combattu jusqu'à la fin de sa vie pour rester à Kadosh, pour attacher Hachem, malgré les grandes épreuves qu'il a eues, comme j'ai raconté un peu dans le Sefer. Il a tellement, s'est battu tellement, il m'a tellement fait rentrer la Emouna et le Bitachon en moi que c'était pas chaud qu'il fallait aller avec Akadosh Baruch Hu à Dassof. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva. Mais tu les vois, les types. C'est des gars qui mettent les tfilines là-bas sur Freshman et Freshwoman. Tu vois les gars et tout ça. Il est là-bas à l'hôtel David Intercontinental, il va là dessus là le Shabbat et tout ça. Et là-bas, il voit là-bas, là-dessus, là, les images de Dior qui défilent devant lui, toutes les ch'touillottes qu'il a vues au cinéma, tous les DVD, toutes les remontées d'égout qui sont remontées avec lui. Ah, Bodaï, comment quelqu'un il est capable de vivre à Dassov avec Hachem et de faire le kinyan de la vérité du Hémet? C'est si jamais il sent que la Torah, c'est une option. Ben ça va, je suis un homme normal. Et en plus de ça, je vis, chaque jour, je fais un peu d'heure de Torah et tout ça. C'est-à-dire, je suis un gars et une femme normale, mais chaque jour, je fais un peu de Torah. Ah, Bodaï, kol aneshama t'aleli alléluia. La Torah, c'est toute la vie. Orpa, Rabotai, cette Mzroba là, ce même soir où elle s'est séparée de son mari, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a été prise par tous les peuples des nations, ils sont venus à plusieurs sur elle. Goliath, ce Mzrob, il est sorti d'elle. Celle qui n'a pas compris que la Torah c'est toute sa vie, qu'est-ce qui peut sortir d'elle, Rabotai? Goliath, le grand ennemi d'Israël, qui nous a tellement menacés. Ruth à Moabia, qui a été capable de mourir pour la Torah, de mourir pour la vérité, qui a appliqué son cœur à vivre avec le Hémet, qui sait qui est sorti d'elle, David Améler, le Mashiach, il sort de cette femme convertie qui a été prête à délaisser, à abandonner toute la Torah Kula pour vivre avec Hachem, parce qu'elle savait que c'était toute sa vie, Rabotai. Et de la même façon, comment Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, elle a été zochée d'être la femme de Moshe Rabbeinu. Rabotai, Tzipora, c'est une femme de Yitro, la fille de Yitro, le prêtre, le plus grand idolâtre de la génération. Il vient épouser l'homme Moshe Isha Elohim, l'homme qui a du divin et de l'homme en lui, le plus grand homme de tous les hommes. L'homme le plus rachouf aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, une femme convertie, vient se marier avec elle. Des espoudres à bouteille, par quel mérite elle a eu ça? Comme ça demandent les commentateurs. Un de mes camarades à la yeshiva, Rav Moshe Binoun, m'a dit un midrash magnifique, Rabotai. Yitro, quand il s'est converti, il a fait une réunion de famille. Il leur a dit, Rabotai, j'ai découvert que la Torah, c'était le Emet. Qui est capable de me suivre dans cette quête de vérité et d'éternité? Tout le monde a répondu présent, papa, on est avec toi, il n'avait que des filles. Tout le monde est venu. On vient, on se convertit, nous aussi. Je préfère vous prévenir d'une chose. Si vous vous convertissez, vous ne vous marierez pas. Parce que tous les Bnei Israël sont en Égypte. Ils sont en esclavage depuis 210 ans et ils vont mourir là-bas peut-être. Yitro, il n'avait pas le roi Hakodesh pour savoir qu'ils allaient sortir les Bnei Israël. Il leur a dit, sachez que si vous sortez, vous vous convertissez, vous ne vous marierez pas. Colle tout, papa. Tout le monde est parti. La seule qui est restée, c'est qui? Tzipora. Kadosh Baruch Hu l'a dit dans le ciel, ma fille, tu as été capable de délaisser tout. Je vais te donner tout. Tu as été capable de délaisser tous les honneurs, toutes les choses, toute la construction d'un foyer qui est toute la vie d'une femme. Tout le rêve qu'elle va avoir des enfants, qu'elle va les faire venir dans ce monde, qu'elle va avoir la belle vie, qu'elle va... Tu vas te vivre toute ta vie seule comme une femme sans te marier. Tu es capable de vivre pour la vérité avec Akadosh Baruch Hu d'Assof et de te jeter à corps perdu entre les mains d'Hachem. Tu vas être zoché de te marier avec l'homme le plus grand de tous les hommes parce que tu as été capable de faire le plus grand sacrifice du monde. Rabotai, les foum tsaragra, en fonction du sacrifice et de l'effort que tu fais, tu récoltes ta récompense et ton salaire. Plus tu es prêt à te jeter à corps perdu entre les mains d'Hachem, et plus tu récoltes un shefa, non pas que dans le Olam Abba, dans le Olam Hazeh, Rabotai, je témoigne. On a tout délaissé, on est venu, on étudie avec les grands maîtres de la génération, Rabotai, je vous assure que je suis un paysan de la campagne, je suis un perdu de la vie. J'ai eu le srout, quand je me suis marié, de m'asseoir avec la Chavruta du Rav Shach pendant 3 années. Toutes les après-midi, j'étais chez lui à la maison, j'étudiais la Gemara. Mais qui je suis? Je ne sais même pas lire la Gemara. Qui je suis, moi? Akadosh Baruch Hu Rabotai, il voit quelqu'un qui est capable de rechercher de la vérité, quel que soit son niveau, quelles que soient ses connaissances. Rahman Ali Baba et Hachem, il veut le cœur, Rabotai. Si Rabotai, si jamais vous avez le cœur et que vous recherchez Akadosh Baruch Hu de tout votre cœur, vous avez écouté un shiur, maintenant vous allez le vivre et l'intégrer dans votre cœur. Vous allez faire cet avodat de Shmiat Ha'ozen, de Shmiat Ha'lev, de l'écouter comme Yitro il a fait, comme Tzipora l'a fait, comme Ruth elle a fait. Rabotai, ça peut tout changer, ça peut changer le cours de notre existence, de notre vie. Mais il faut le vouloir. Parce que Rabotai, sur les milliards d'habitants qui ont entendu Kiryat Yam Souf, qui a fait revenir Bitshuva Yitro, il n'y en a qu'un seul qui s'est levé et qui a dit, moi je veux vivre avec la vérité. Le monde entier, il va avec le Sheker. Il y a des Yechidé Segula qui s'appellent les Bnei Israël dans la vie. Le juif, il est comparé au saumon. Il va à contre-courant, il va à contre-courant toujours. Pourquoi il a les écailles et les nageoires, le poisson qui est cachère? Parce qu'il doit nager à contre-courant des nations et des peuples. Le monde entier va dans le shaker. J'en ai rien à faire du monde entier. Moi, je vais vivre avec la Torah, je vais vivre avec le Mé. Rabotai Bezrat Hashem, je fais une tfila devant Akadosh Baruch Hu, le Ribono Shalom, maître de l'univers, qu'on ait le sroud de vivre. Et je vous dis, moi le premier, vous tous, Bezrat Hashem, et tous les enfants du Ham Israël, qu'on ait le sroud de vivre Be'emet avec la vérité. Qu'on ait le sroud de faire pénétrer les paroles profondément dans notre cœur et que Bezrat Hashem en sorte de ce shiro et qu'on se renforce. Quand Akadosh Baruch Hu, il va voir qu'on veut tellement vivre avec la vérité, qu'on veut tellement qu'il se dévoile pour que tous les mensonges de ce Alma des Shikra, ce monde de l'obscurité, il laisse place au monde de la lumière, on aura le sroud de recevoir le Mashiach Tzidkenu Bezrat Hashem.